Les camps d'entraînement se poursuivent à travers la NFL. Beaucoup de sujets à travers la Ligue, tant au niveau des blessés, des signatures de contrats, mais également de la discorde de la bisbille à travers la Ligue. C'est habituel à cette période-ci de l'année. Et on en parle avec Jean-François Maltais qui est avec nous ce matin. Et jeudi matin également pour conclure mon remplacement estival. Merci encore une fois, Jean-François, d'être là ce matin.
Hey, ça me fait plaisir, Jasmin.
Je suis pas quelqu'un qui aime la chicane habituellement dans la vie. J'aime lorsqu'on s'entend bien et qu'on a des beaux moments ensemble. Mais lorsque ça ne me concerne pas, ça peut être plaisant quand même de parler d'un peu de chicane, Jean-François.
Effectivement, Mike. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit comme amateur et comme observateur, effectivement, c'est toujours intéressant parce que ça peut créer du mouvement.
J'ai l'impression aux États-Unis que si on faisait la même émission de radio en étant situé dans n'importe quelle grosse ville américaine, le sujet et le nom numéro un qu'on parlerait, c'est Micah Parsons. Et on va commencer avec lui aussi, même si on est à Montréal, ici au Québec. Micah Parsons avec les Cowboys de Dallas, c'est le dossier dans la NFL. Il a officiellement demandé une transaction aux Cowboys de Dallas. Jerry Jones n'a pas eu l'air trop inquiet en disant ça fait partie des négociations et n'a pas semblé inquiet à outre mesure. Mais est-ce que tu penses que Micah Parsons pourrait véritablement quitter les Cowboys? Ce serait une perte incommensurable pour eux.
Ah, écoute, je vais commencer par parler de Jerry Jones. Jasmin, c'est toujours la même chose et c'est particulier aux Cowboys et à Jerry Jones. À toutes les fois qu'on a un joueur vedette qui arrive à l'époque où est-ce qu'on peut signer une prolongation de contrat, que ça peut être CeeDee Lamb, Dak Prescott, Dez Bryant à l'époque, écoute, on remonte dans le temps, on dirait que
c'est
Jerry
jamais
Jones
simple.
Aime ça. Il aime ça, se rendre au bout, attirer l'attention, et surtout, il aime ça payer plus cher. Pourquoi? Fouille-moi, pourquoi? Mais à toutes les fois, c'est la même chose. Avec Dak Prescott, écoute, je me rappelle, il y a quelques années, Jasmin, j'étais avec Anthony Marcotte sur cette même émission, puis lorsque Dak Prescott avait signé son contrat, écoute, c'est pas compliqué, il a tout gagné dans ses négociations. Le salaire garanti, la clause de non-échange, la clause qui empêche les Cowboys de lui appliquer l'étiquette de joueur franchise. Écoute, il a tout gagné sur toute la ligne, les négociations. Et là, on se dirige dans la même place parce que du côté de Micah Parsons, on parle d'un joueur élite à sa position, là, vraiment top 3. Écoute, il a 52,5 sacs dans ses 4 premières saisons, imagine-toi, et il a manqué 4 matchs l'an passé. Alors, on continue d'utiliser ce modus operandi-là du côté de Jerry Jones, mais je m'explique pas pourquoi, sauf que j'ai l'impression qu'il aime ça. Alors, comme tu le dis, si jamais on se rend avec Micah Parsons du côté d'une transaction, il a demandé une transaction là, suite à tout ce qui circule depuis la semaine passée, effectivement, ça serait catastrophique parce que on a absolument personne pour le remplacer du côté des Cowboys. Ça, c'est bien évident. Mais pas de profondeur.
Il y a personne qui peut remplacer Micah Parsons. Moi, Micah Parsons, dans ma tête, Jean-François, corrige-moi si t'es pas du même avis, c'est le genre de gars où t'es à peu près sur la ligne de mets le chiffre que tu veux sur le chèque, on va te le donner. C'est un des 3, 4, 5 meilleurs joueurs défensifs de la NFL et il y a même des gens qui pensent que c'est le meilleur joueur défensif. Ça, écoute, on pourrait se faire un débat là, avec TJ Watt, avec Miles Garrett, peu importe, là, mais c'est dans les tout meilleurs joueurs de la NFL en défense. Alors, une équipe, lorsqu'elle arrive à la possibilité de re-signer un joueur comme ça, si lui veut rester à Dallas, j'ai l'impression que trouve une solution. Je veux pas savoir comment, mais il faut que tu le signes.
Ben, exactement, on est dans la même trempe de joueurs. Écoute, t'as tout dit, Jasmin, c'est exactement ça. Parce que Micah Parsons est un joueur sur lequel, lorsque tu arrives, bon, on joue les Cowboys la semaine prochaine, on commence à faire le plan de match, ben, je peux te garantir que tous les coordonnateurs offensifs de la NFL qui affrontent les Cowboys vont modifier leur plan de match en fonction de Micah Parsons. C'est ce type de joueur-là. On doit constamment le doubler, donc on doit changer des choses qu'on fait normalement à l'attaque pour tenir compte de Micah Parsons, tout comme on le fait pour Miles Garrett et T.J. Watt, comme tu l'as dit. Là, on est dans la même trempe de joueurs. Alors, c'est inexplicable, mais au bout de la ligne, ça va probablement finir comme les autres. C'est-à-dire que Micah Parsons va signer le plus gros contrat de tous les joueurs défensifs de la NFL. Ça va finir comme ça. On va payer plus cher, on va payer le pactole et Jerry Jones va être content. Alors, mais, ça va probablement finir comme ça.
Mais ça va avoir fait de la distraction, ça va avoir été un dossier qui va avoir probablement été plus compliqué à régler que ce que ça aurait pu être. On verra finalement là, si ça va aller. Il y en a deux autres conflits à travers la NFL aussi sur deux joueurs clés quand même de leur formation. Je veux t'entendre là-dessus. James Cook avec les Bills de Buffalo. Lui, dans son cas, il gagne 5 millions de dollars pour 2025 et selon ce qu'on entend, il voudrait tripler son salaire et monter à 15 millions le demi-offensif des Bills. Et Terry McLaurin, lui, on en a déjà parlé dans nos précédentes chroniques. Il a officiellement demandé une transaction aussi aux Commanders pour une mésentente contractuelle. Comment tu vois ces deux situations-là?
Oui, deux situations différentes. On va commencer par James Cook. James Cook, c'est pas compliqué, Jasmine, c'est le phénomène des porteurs de ballon. Donc, on connaît James Cook, on connaît son importance dans l'attaque des Bills. D'ailleurs, l'an passé, on a modifié un petit peu notre attaque parce qu'on n'avait plus les receveurs de passes éloignées qu'on avait auparavant avec les Stephon Diggs, etc., Gabriel Davis. Donc, on a utilisé davantage James Cook, autant au sol que par la passe. C'est un excellent receveur de passes également comme porteur de ballon. Mais le phénomène, c'est que les porteurs de ballon, c'est
on veut pas
position,
les payer.
C'est ça qui est sous-évalué, c'est ça. Là, on la considère moins cette position-là, pas parce qu'on n'aime pas les joueurs ou parce qu'on trouve pas qu'ils sont bons. C'est que c'est une position qui est très physique. On se fait frapper des dizaines et des vingtaines de fois par match. Il y a plus de blessures et les carrières sont plus courtes. Donc, dès qu'on commence à 28, 29 et 30 ans, sauf exception, eh bien, on commence à décliner beaucoup plus rapidement qu'à d'autres positions. Donc, on veut pas les payer. Et le réseau universitaire de la NCAA regorge de jeunes porteurs de ballons de premier ordre. Écoute, on prend des gars en 5, en 6 et même en 7e ronde qui arrivent au camp et tu les regardes et wow, tu sais, quel porteur de ballon. Eux aussi sont dévalués, c'est le mot que je cherchais, dévalués, au niveau du repêchage aussi. Souvent, un talent de première ronde va sortir en deuxième, troisième ronde parce qu'on est un porteur de ballon. Donc, ceci dit, le problème avec lorsque tu ne les repêches pas en première ronde, comme James Cook, c'est un choix de deuxième ronde, donc on a un contrat recrue de 4 ans. Là, James Cook est dans sa 4e année, donc il n'a pas cette 5e année comme l'option qu'on a pour les choix de première ronde. Donc, il est joueur autonome sans restriction l'année prochaine. Donc, on se doit, là, du côté des Bills, soit d'aller avec une prolongation de contrat ou encore lui appliquer l'étiquette de joueur franchise si, admettons, on ne signe pas de prolongation cette année. Donc, si on applique l'étiquette de joueur franchise, ben là, il va avoir le salaire top 5 à sa position, mais c'est un contrat d'un an garanti qui s'applique entièrement sur le cap et non pas, tu sais, que tu peux, comme quand tu fais une prolongation, là, tu peux, comme je l'expliquais l'autre jour, mettre le montant un peu éparpillé sur la prolongation de contrat. Donc ça, c'est la situation de James Cook qui est à surveiller et lui, il est, comme j'expliquais dans la situation de la semaine passée, c'est un ce qu'on appelle un hold-in, donc il est au camp.
Mais il fait pas grand-chose.
Il est présent de corps et d'esprit, mais il ne fait rien. Donc, ça, c'est James Cook. Et rapidement, sur McLaurin, on en a parlé l'autre jour. Ben, lui, ce qui est curieux là-dedans, c'est que les Commanders, cette année, on a dépensé beaucoup d'argent parce qu'on veut gagner avec, justement, pendant que Daniels est sur son contrat recrue. On a ajouté, écoute, Laremy Tunsil, un bloqueur à gauche de premier ordre qui coûte très, très cher. On est allé chercher Deebo Samuel, qui était lui aussi sur une grosse prolongation de contrat avec les 49ers. Donc, un gars qui coûte cher. Mais là, on arrive avec notre meilleur joueur, puis on veut pas le payer, notre meilleur joueur, à part de Daniels, évidemment. Et là, on hésite parce qu'il approche la trentaine. Alors là, McLaurin, là, j'aime pas ce que je vois, par contre, parce que là, le fait de demander une transaction, il est arrivé au camp, mais là, demande une transaction, là, ça sent moins bon. Puis ça, j'aime pas ça, parce que tout était positif chez les Commanders depuis la fin de la saison passée. Mais là, ça, là, j'aime pas ça. Ça crée de la distraction du côté des Commanders.
Même si Dan Quinn a dit que ce n'était pas une distraction pour l'équipe, lui, évidemment, il est l'entraîneur-chef, ouais. Alors il va dire ça. Mais dans la réalité, je suis d'accord avec toi que ça en crée. Et s'il y en a un des deux entre Micah Parsons ou Terry McLaurin qui peut être échangé, j'ai l'impression que c'est plus plausible pour Terry McLaurin que pour Micah Parsons à Dallas. On verra. Sur un sujet un peu plus loufoque et léger maintenant, j'avais hâte d'avoir ton avis là-dessus, Jean-François, parce que dans les derniers jours, en fait, lors du premier match préparatoire au Temple de la Renommée à Canton la semaine dernière, on s'est rendu compte que la NFL testait une technologie qui visait à mettre en place dès cette saison la fameuse technologie Hawkeye qu'on voit au tennis, qui permet de positionner la balle de tennis parfaitement sur le terrain. Et finalement, la NFL serait arrivée en 2025 et voudrait utiliser cette technologie dès cette année pour qu'on puisse savoir avec exactitude où est le ballon sur le terrain. Moi, tu me dis ça, je me dis, ben, ça doit faire 20-25 ans que c'est le cas dans la NFL. Ben non, c'était pas le cas depuis toujours. C'était encore les bons vieux chaînards qui venaient nous régler ça, là.
Ben exactement. C'est sûr et certain que plus la technologie avance, plus ça devient difficile pour les autres. Tu sais, on blâme les officiels. Écoute, c'est pas compliqué. Chasmet, t'es impliqué dans le football à chaque dimanche, là, de par ton travail. Puis à chaque fin de soirée, là, il y a des scandales sur
le
sur
positionnement d'un ballon.
Bon, attends, il est arrivé telle chose, les arbitres, c'est épouvantable, etc. Mais tu sais, nous, on est dans le salon, on a 425 reprises différentes, puis tu sais, eux sont sur le terrain. Bon, oui, on a plus d'assistance. Maintenant, les arbitres, ils reçoivent, là, ils ont une petite oreillette, puis bon, occasionnellement, on va se faire dire, wow, t'as-tu fait, on change telle décision. Mais là, c'est sûr que le facteur humain de l'officiel qui voit le ballon doit aller le placer. Bon, des fois, le placement n'est pas bon. On peut aller tirer notre mouchoir pour aller voir une reprise là-dessus aussi. Mais là, ce que je me demande, Jasmin, c'est au niveau pour le Hawkeye. Lorsqu'on a, tu sais, des fois, on a un porteur de ballon qui arrive puis qui entre dans la ligne défensive, il y a 7-8 joueurs de 300 livres de par-dessus. Je me demande comment on va faire pour voir exactement ce que le ballon est.
Ce qu'on comprend, c'est que des capteurs vont être installés dans le ballon et il y a 8 caméras dans le stade qui vont j'ai le mot tracker en anglais, là, mais qui vont essayer de percevoir là, sur le terrain où est le ballon de par la puce qu'il y aura dans le ballon avec ces caméras-là. C'est ce qu'on comprend. Moi, écoute, habituellement, quand la NFL installe ce genre de choses-là, elle le fait de la bonne manière, puis elle met l'argent qu'il faut pour le faire. Alors, je vais leur laisser le bénéfice du doute. Moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression que ça fait des années qu'il aurait déjà dû être le cas. Je trouvais ça folklorique de me dire qu'une ligue qui vaut des milliards et des milliards de dollars avait deux gars avec leur bâton qui venaient nous dire si le gars avait un premier essai ou pas, là.
Ah non, effectivement. Mais tu sais, suite à ça, je comprends qu'il va y avoir un tracking sur le ballon, mais tu sais, il va falloir aussi déterminer. Souvent, là, le genou est à terre en même temps, tu sais, à quel moment. Ouais. Je me demande comment on va faire, mais écoute, si je pense que ça. C'est prometteur, effectivement, comme technologie. Ça va certainement améliorer, mais il va y avoir encore des. C'est sûr qu'il va y avoir des scandales. Je suis convaincu, à un moment donné, on va dire, ah ben là, le tracking était pas bon, là, où est-ce que le genou a touché, en tout cas, c'est. Ouais. Mais ça va certainement être probablement mieux. Mais mais j'ai aimé ça, tout comme j'ai aimé moi je trouve que c'était un bon compromis, le change un petit peu de sport, mais dans le match des étoiles du baseball l'autre jour, pour la reprise, pour les balles et les prises. Ça, j'ai aimé ça. C'était rapide parce que le joueur touchait son casque et tout ça, puis on allait voir la prise, parce que j'aime quand même le fait que c'est un officiel derrière le marbre qui appelle les balles et les prises, mais avec juste deux fois par match là, le petit challenge comme ça en touchant le casque. Ça, j'avais aimé ça, par contre.
Ça, on l'a vu dans le camp d'entraînement et je pense que ça va venir éventuellement dans le baseball majeur aussi. Mais écoute, on verra, et tu dis, et ça va créer de la controverse. Que serait la NFL s'il n'y avait pas de la controverse un dimanche soir de temps en temps? Il en faut de la controverse. J'ai besoin d'être diverti, moi, l'automne, alors ça me prend de la controverse. On fait des blagues, évidemment, là, mais il y en a à chaque année, peu importe les décisions que prennent la NFL. Dernier sujet que je veux parler avec toi, Jean-François, avant qu'on se laisse, c'est Shedeur Sanders avec les Browns de Cleveland. Hier, les Browns ont annoncé la signature de Tyler Huntley, qui s'ajoute au groupe de quarts à Cleveland. Ils sont maintenant 5 quarts disponibles à Cleveland. Shedeur Sanders a indiqué en entrevue notamment qu'il a demandé à son père de ne pas venir aux entraînements des Browns pour ne pas qu'il devienne une distraction. Il veut se concentrer sur ce camp d'entraînement-là. Ça devient de plus en plus flou, là, ce qui va se passer à Cleveland au niveau des quarts arrière, parce qu'il y en a beaucoup et il va y en avoir un seul qui va être sur le terrain au début septembre, là.
Ben, moi, je trouve ça intéressant ce qu'on a appris hier parce que je pense que ça donne une bonne dose d'humilité. Là. Ça a donné une bonne dose d'humilité à Shador d'être sélectionné en cinquième ronde au dernier repêchage. Ça, c'est le premier point. Ne veut pas que son père, parce que imagine-toi que son frère, hein, Shilo, qui est au camp des Buccaneers de Tampa Bay, alors il a dit à papa Dion, va au camp Shilo, là. Moi, je vais m'organiser ici au camp des Browns. C'est pas inhabituel, là, tu le mentionnais, Tyler Huntley maintenant s'ajoute, parce que là, le problème, c'est que Kenny Pickett et Dylan Gabriel également, qui était le choix de quatrième ronde des Browns, comme carrière, les deux ne seront pas en mesure, là, si j'ai bien compris, de disputer le match, le premier match hors concours. Donc, tu sais, ça prend au moins trois carrières, là, dans un match hors concours, parce qu'on veut pas, tu sais, le quatrième quart, là, à partir du milieu du troisième quart et le quatrième quart dans les matchs hors concours, c'est pour les joueurs qui normalement feront pas l'équipe. T'sais, on veut éviter les blessures. Puis, gars, si quelqu'un nous demande quelque chose dans ces minutes-là, ben, on peut trouver, on peut le faire monter par la suite dans la. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors là, c'est une belle opportunité, Jasmin, pour Shador Sanders de démontrer qu'est-ce qu'il peut faire, parce qu'il va pouvoir avoir de l'action. Là, Huntley vient juste d'arriver. Écoute, le connaît absolument rien du livre de jeu des Browns. Donc, Flacco va probablement jouer un petit peu, mais c'est Sanders, là, qui va jouer, selon moi, la majeure partie du premier match hors concours. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour lui parce que ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce que tu peux faire sur le terrain. Alors, moi, je trouve que c'est positif. Le fait qu'il n'amène pas son père, c'est positif aussi parce que lui veut se concentrer sur ce qu'il a à faire. Alors, bravo. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en fin de semaine.
Ouais, j'ai hâte de voir aussi. Ça va commencer ce week-end, véritablement, les matchs pré-saison. On va avoir l'occasion de s'en reparler jeudi, Jean-François. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Toujours un plaisir de parler football avec toi. Et moi, mon œil est sur la situation Micah Parsons. Je ne sais pas si d'ici à jeudi, on en aura des nouveaux développements, mais c'est la situation que je suis le plus dans la NFL présentement.
Ouais, moi, ma prédiction, c'est tout juste avant le premier match de la saison, les gars.
Ben là, ça veut dire qu'on sera plus ensemble pour faire nos chroniques pour en parler.
Comme
merci beaucoup, Jean-François. Merci. Bonne journée.
Bonne journée, Jasmin. Bye.